Vous êtes à Boulevard 102.1, 10h44. Vous avez envie de nous jaser? Il y a toujours le 88-780-1021. Vous pouvez nous appeler. Il y a le 971-1021 par texto également. C'est toujours disponible aussi. La belle communauté Twitch, on est rendu à 4000 personnes qui se connectent ici et là tous les jours. 4000 abonnés. Je connaissais pas Twitch avant qu'on commence à l'utiliser à Boulevard 102.1. Puis je me rends compte que c'est une sacrée belle communauté. Avez-vous ça du côté de week-end, Kat?
Non.
Honnêtement.
Bonne affaire, je pense qu'on l'a pas.
Pour hors des ondes.
Seigneur. Non, je pense qu'on perd tout notre job.
Ben, tu vois, on s'est dit ça beaucoup. Les premiers mois, on avait de la misère, on s'empêchait de parler, c'était épouvantable. On s'arrangeait même. Là, on était comme, mon Dieu, on est filmé, tu sais. Maintenant, on s'habitue puis on se rend compte qu'il embarque dans nos niaiseries. Grande communauté.
C'est, voilà, je te raconte. Parce que, tu sais, des fois, nous, à week-end, on a fait des émissions 100% live. Ça veut dire qu'on ne ferme jamais les micros. La publicité est en direct, ouais. La musique est en direct, tout est en direct. La première fois qu'on a fait ça, Martin a amené son fils avec lui pour s'assurer de bien se gérer.
Arrête!
Ouais.
Pour être sûr de ne pas dire trop de niaiseries.
C'est ça. Ça n'a pas marché.
Oh, c'est
ça
bon!
Ça n'a pas marché, même si son fils était là. Fait que t'imagines-tu si on avait Twitch?
Ben écoute, je te dirais qu'avec le temps, on s'habitue, mais moi, c'est une communauté que j'apprécie beaucoup. Ils sont assez hot, là. Ils s'autogèrent, premièrement. Là. Souvent, on n'a même pas à embarquer dans la conversation. Et ils se sont même créé un groupe Facebook.
Mais voyons!
Où ce sont les auditeurs du Twitch de Boulevard, puis ils vont aux événements ensemble, ils se font des soupers, des... Sérieux, c'est vraiment trippant à voir aller.
Wow.
Je connaissais pas la plateforme avant qu'on commence à faire ça. Puis tu vois, maintenant, c'est un peu un incontournable. Fait que vous avez envie de joindre la communauté, vous n'hésitez pas sur le twitch.tv, blvd.fm. En plus, ben, vous voyez un peu les dessous de la radio parce que on laisse les micros ouverts pendant les pauses, les chansons, étant donné qu'il y a des droits puis qu'on peut pas les diffuser. Ce qui fait que vous avez un peu accès aux dessous d'eux. On continue la conversation souvent hors d'onde. Vous êtes toujours les bienvenus. On parle ce matin avec Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale en milieu d'urgence. Julie Nadeau, qui a été un vrai coup de cœur pour moi, Kat, là, est venue il y a à peu près un mois et demi, nous a jasé de son métier. Travailleuse sociale, on sait un peu ce que ça fait, on s'imagine un peu ce que ça fait. Par contre, en milieu d'urgence, ça veut dire que Julie a les pieds directement sur le terrain. Elle est avec les pompiers, elle est avec les policiers, elle est avec les paramédics, puis elle s'assure d'aider au niveau de leur santé mentale, parce que ces gens-là, veut pas, ben ils voient du négatif pas mal tous les jours. Et cette semaine, c'est la semaine de la police. Fait qu'on s'est dit, regarde, c'est un contexte pour y rejaser. Ça se tient jusqu'au 17 mai sous le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ». Puis c'est ce qu'on fait dans l'open mic, essayer de mettre l'humain de l'avant. Julie, bon matin.
Hey, bon matin, contente d'être de retour.
C'est toujours un plaisir de te jaser. Là, l'angle qu'on prend ce matin, c'est vraiment de parler de la santé mentale de ces travailleurs-là, reliés avec les conditions, finalement, dans lesquelles ils travaillent.
Absolument. Et c'est ça la différence entre une travailleuse sociale, une psychologue, puis j'ai rien contre les psys, je travaille avec eux. Par contre, en travail social, on essaie toujours de regarder c'est quoi l'environnement dans lequel la personne se trouve pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des maladies mentales qui se développent parce que les conditions de travail, par exemple, dans le cas présent, ont une influence. Fait que c'est ça que je viens vous jaser ce matin.
Peux-tu peut-être juste nous rappeler, mettons, pour les gens qui n'étaient pas là,
ouais.
Là, parce qu'on s'entend, on n'a pas toujours le même monde qui est là au même moment. Concrètement, ce que tu fais au day-to-day, toi, avec ces gens-là?
Oui. Moi, je fais des suivis en individuel avec policiers, pompiers, paramédics, agents des services correctionnels qu'on oublie souvent, qu'on appelle à tort gardiens de prison, et les répartiteurs 911, militaires de temps en temps. Fait que ça, c'est ma clientèle. Fait que suivi individuel, suivi de groupe à post-événement, qu'on appelle les debriefings, et je fais de la formation également avec cette clientèle-là.
Tabac dans le char, là. Carrément.
J'ai souvent mes bottes à cap, ma petite veste rose et je vais gambader sur le terrain avec eux et j'ai beaucoup de plaisir.
Trouve ça le fun. On entend souvent parler du stress des intervenants d'urgence, mais qu'est-ce qui use vraiment dans leurs conditions de travail au quotidien? Parce qu'il y a une grande imprévisibilité, je veux dire, ils ont des horaires qui sont atypiques, c'est le bordel. Là. Souvent, ça affecte aussi la famille, l'entourage.
Absolument. Je vais commencer par les paramédics parce qu'il y a un mouvement de grève qui s'en vient chez les paramédics. Paramédic de la CSN, fait que je viens pas faire de la politique ce matin, mais j'ai expliqué un peu les doléances de cette gang-là. Paramédic, qu'on appelle à tort ambulancier, dans le fond, vivent des situations difficiles. Il y a une surcharge présentement au niveau du système de santé. Hein? On sait que ça va bien au niveau du système de santé. Ça fait 30 ans, je suis dans le
numéro 1.
On a rien à signaler.
Numéro 1.
Il y a beaucoup d'attentes dans les centres hospitaliers. C'est vraiment ce qui ressort présentement. Fait que les paramédics, là, mettons, on est à Québec présentement. Les paramédics iraient chercher un patient, une patiente qui va pas bien. irait attendre à l'hôpital peut-être un 2, 3, 4, 5, 6 heures à côté du patient. Fait que là, ils entendent sur les ondes qu'ils rentrent, par exemple, un appel pour un arrêt cardiaque, mais ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont vissés à l'hôpital. On appelle ça la rétention. Et à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile. On ne sait pas quand on va manger, on ne sait pas c'est quand notre fin de corps, puis on attend, puis ce n'est pas ça la job qu'on voulait faire dans la vie. Fait que ça, c'est un enjeu pour les paramédics.
Mais tu sais, juste là-dessus, là, je pense qu'il y a bien des gens du public qui ne savaient même pas ça. Ils prenaient pour acquis que des ambulanciers viennent chercher quelqu'un, excusez mon langage, va le domper à l'hôpital et puis repartent sur la route. Mais c'est pas ça pantoute qui se passe.
Pantoute. C'est ce que la loi dit. Tu as absolument raison, Catherine. Sauf que dans la réalité, c'est que, par exemple, l'hôpital ne serait pas prêt à accueillir cette personne-là. Ils n'ont pas de lit disponible.
Parce que les urgences débordent à 200 %. Ils n'ont pas de lit.
Exactement. Donc, les paramédics, pendant ce temps-là, vont garder la personne pour s'assurer, oui, qu'elle est monitorée puis qu'on s'assure que ses signes vitaux sont corrects. Mais c'est aussi en attente parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de ce patient ou de ce patient.
C'est quasiment insultant. T'sais, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, dans le cadre de la semaine des paramédics, d'aller passer une journée avec Stéphane et Sylvain, je vais les saluer, qui m'ont accueilli comme genre de stagiaire. Fait que j'ai eu la chance vraiment de passer la journée dans l'ambulance avec eux, de débarquer sur les cas qu'ils avaient. Puis ça, c'est une des premières choses que j'ai remarquées parce que moi, quand la journée a commencé, je me disais, hey, ça va aller au toast, là. On va voir du monde aujourd'hui, ça va être le fun. Puis première personne, on était encore, les cas de COVID étaient encore très présents.
Oui.
Puis première personne qu'on pogne, c'est une affaire de COVID, mais ça fait en sorte qu'il y a des conséquences sur l'état de la personne. Puis ça a été ça, là. On est arrivé dans le garage de l'hôpital, puis on a passé un petit bout là, parce que là, ils sont pas prêts à faire rentrer la civière, ils sont pas prêts à placer la personne. Tu peux pas laisser dans le corridor, ça arrive de quoi? Fait que les paramédics sont responsables de cette personne-là jusqu'à ce qu'il y ait une prise en charge. Puis effectivement, qu'il y a une impuissance pour les paramédics.
Ben oui.
Parce que là, tu vois, il y a des calls qui rentrent. Il manque pas de paramédics, mais il manque de véhicules. Ce qui fait en sorte que quand il y a des appels, ben, s'il y en a un qui est prêt à l'hôpital, il y a personne qui est sur le terrain. Puis c'est là qu'on voit après ça les temps des médias. Puis fait que c'est épouvantable de voir à quel point même eux sont un peu démunis de ça, parce que c'est pas un manque de vouloir, là. Ils ont juste pas le choix.
Exactement. Fait que ça fait en sorte que les gens ne se sentent pas utilisés à leur plein potentiel. Je vais dire ça comme ça. C'est beaucoup ce que j'entends dans mon bureau. Puis quand je sors sur la route, c'est « Hey, moi, j'ai pas choisi d'être préposé. » Rien contre les préposés, mais moi, j'ai choisi d'être paramédic. Je voulais être dehors, je voulais être dans mon truck. Puis là, finalement, je me retrouve à l'hôpital en train de surveiller un patient qui est peut-être même pas instable. Hein, t'sais, fait que je suis peut-être pas dans une surveillance médicale. On comprend tous qu'il y a une obligation. Puis bon, l'idée, c'est pas ça. Mais c'est plus de démontrer que ces personnes-là font pas ce qu'ils voulaient faire, en fait. Ça, c'est un enjeu super important du côté des paramédics à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part du milieu par rapport au... Parce qu'on parle souvent de manque de reconnaissance.
Oui. Et pour toutes les professions que je viens de vous parler ce matin, il y a un manque de reconnaissance qui prend différents angles, je dirais. Chez les paramédics et les pompiers, à chaque année, il y a un sondage léger pour dire la population fait confiance à qui? Numéro un, il y a une chicane entre les paramédics et les pompiers. Donc, ça alterne un peu l'espèce d'amour du public, ce qu'on n'a pas chez les policiers, on s'entend. Puis chez les agents correctionnels, bon, on ne sait pas qui existe. Fait qu'à part dans le temps d'Unité 9, le reste du temps, on ne se rappelle même plus qui existe. Policiers, bien évidemment, hein, on fait le procès souvent de la police. Ce que je constate cette année, c'est que les paramédics commencent à être un petit peu plus torqués, je dirais, par la population. Ça fait plusieurs interventions qui sont filmées. Moi, ça fait 7 dossiers cette année que j'ai fait de paramédics qui ont été filmés sur leur intervention. Puis évidemment, il y a un petit montage qui se fait, puis on n'a pas le meilleur bout probablement de leur intervention. Fait que là, on fait ce que j'appelle le Tribunal populaire du Québec, c'est-à-dire la zone de commentaires sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Donc, on fait leur procès. Fait que la reconnaissance, elle n'est pas tant là. Chez les paramédics, c'est face aux autres professionnels de la santé, des fois. J'ai entendu souvent, là, tu sais, moi-même, votre taxi arrive, madame, parce que c'est l'ambulance.
Oh, mon doux.
Apply.
Et le pire, c'est que c'est pas pour rien qu'on a changé le terme ambulancier à paramédic dans les dernières années, parce que ambulancier, puis là, écoute, je parle d'un temps où j'existais même pas, mais de ce que je comprends, on transportait littéralement les malades à l'hôpital. Mais
absolument.
Maintenant, les paramédics, c'est toute qu'une formation, là.
Oui.
Et ils en font des affaires, moi, de dire, dans leur cabine jaune, là, puis c'est médical sur un méchant temps, il y a un long processus, puis c'est la première chaîne, le premier maillon, j'ai envie de dire, d'une longue chaîne. Ce qui se passe dans l'ambulance, souvent, va dicter ce qui va se passer à l'hôpital.
Oui, absolument.
Autant sur l'état du patient que l'humeur du patient. Tu sais, j'ai envie de dire, puis ce sera à toi, Julie, de me dire si je me trompe, là. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans cette journée-là où j'ai eu la chance de les accompagner, c'est qu'on dirait qu'ils sont aussi un peu travailleurs sociaux, les psy.
Ah oui.
Tu sais, je veux dire, il y en entend dans tabarnouche, je vais te dire, dans cette cabine-là, là, roulante. Là, c'est assez fascinant. Là.
C'est, le rôle a changé, puis c'est la même chose du côté des policiers, parce que moi, quand j'ai commencé en 97, les policiers faisaient de la police. Donc, on était code criminel, code de procédure pénale, code de sécurité routière. Puis on était pas mal là. Maintenant, les appels avec un volet santé mentale sont beaucoup plus élevés. Donc, on parle d'intervenants d'urgence qui deviennent intervenants psychosociaux dans bien des cas, avec une formation de 60 heures sur la santé mentale, puis arrange-toi avec ça. Puis
même pour les policiers aussi?
Absolument, c'est la même chose du côté de la formation. En technique carcérale, c'est la même chose. On donne 60 heures en santé mentale pour l'AEC, ceux qui font l'AEC en service correctionnel pour enseigner dans cette discipline-là. Et ben, on leur demande d'aller s'arranger avec des gens avec une formation plus ou moins efficace, je dirais, puis dans un rôle qui est un peu contradictoire aussi. Tu sais, pour les policiers, c'est que t'es la personne qui va sanctionner, mais tu devrais aider aussi. Fait que t'as un rôle un petit peu bizarre. Dans le sens où c'est un peu paradoxal, comment tu crées un lien?
Je trouve ça particulier parce que les policiers maintenant apprennent même dans leur formation à l'école comment justement jouer avec ça. Puis ça démontre un peu à quel point la société va mal, là, dans la mesure où sur le terrain, il y a la moitié de leurs appels en soirée que c'est souvent des gens qui vont avoir envie de potentiellement mettre fin à leur jour. T'as beaucoup de problèmes de santé mentale avec l'itinérance. Ouais. Fait que souvent, t'as l'impression quand t'es jeune que tu vas te diriger vers un métier où tu vas sauver le monde, tu vas être sur des grandes scènes de crime, tu vas enquêter. Puis finalement,
à la société.
Oui. Puis finalement, c'est pas ça pendant tout que tu fais, là.
Ouais.
Tu sais, t'es sur le terrain parce qu'il manque aussi, veux pas, de psychologues, de travailleurs sociaux. Il y a un manque de ressources partout, fait que t'as pas le choix de prendre ce rôle-là sur tes épaules.
Moi, Julie, t'as mentionné quelque chose, là, les médias sociaux, interventions qui ont été filmées puis qui sont retrouvées sur les médias sociaux, puis moi, j'en ai en tête.
Oui, là, j'ai vu ta réaction.
Puis je veux, tu sais, je veux pas non plus cibler quelque chose, mais moi, ce que j'avais vu, c'était profondément troublant aussi comme intervention de la part des paramédics. Tu sais, j'étais là, coudonc, ils ont-tu des techniques, ils ont-tu appris quelque chose? J'aurais pas fait pire, tu sais, ou j'aurais pas fait... Si moi, j'étais allée, là, c'est certain que j'aurais pas fait mieux qu'eux autres, puis ça aurait pas pu être pire, là, tu sais, sur des transports de patients et tout. Comment on peut se retrouver avec des situations comme celle-là?
Bien, j'ai l'impression, puis c'est pas pour cautionner les comportements de qui que ce soit, mais des fois, il y a comme une usure aussi face au métier, une désillusion super importante, puis je cautionne pas aucun geste, évidemment, qui manque de classe, là, et de savoir-être. Ce que moi, il me dérange, c'est plus qu'on utilise les réseaux sociaux au lieu des mécanismes de protection, c'est-à-dire le protecteur du citoyen, c'est-à-dire le commissaire aux plaintes, c'est-à-dire le CIS ou CIUS qui va recevoir la plainte dans le cas des paramédics. C'est plus ça, moi, mon take là-dessus. Par contre, je pense qu'il y a une usure et pour certains, je pense qu'il y a une incompréhension. Puis là, si je pense aux paramédics, j'ai travaillé avec un cégep l'an dernier à leur dire, arrêtez de leur dire qu'ils vont sauver des vies. Tu sais, sauver des vies ou des cartes d'appel qu'on appelle les cartes neuf, donc arrêt cardio-respiratoire, c'est infime. Ce qu'ils vont faire beaucoup plus, c'est de la gérontologie, de la santé mentale. C'est une chute dans un RPA que, si tu penses sauver une vie sur une chute, tu sais, chute de sa hauteur, c'est pas ça que tu vas aller faire. Fait que pour certains, ce que moi, je constate, puis on le voit dans des statistiques non officielles, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter le métier très tôt. Un, parce qu'on leur offre pas des horaires extraordinaires. Puis là, je parle pas de travail de nuit, parce qu'on sait tous qu'il y a des horaires de nuit, mais c'est l'alternance, un jour de soir, un jour de nuit, change de partner, etc. Fait que, encore là, je rappelle que je ne cautionne pas, je cherche à expliquer des fois des comportements de dépassement.
Oui, c'est ça, c'était ça ma question.
Oui, puis c'est ça que je le sentais comme il faut, mais t'as coup que quelqu'un comprenne pas la bonne chose.
J'ai même envie d'ajouter à ce que tu dis, Kat, ce qui est plate avec le tribunal social des plateformes puis des réseaux sociaux, c'est qu'on va teinter la profession au complet au lieu de.
Des individus.
Au lieu de punir un individu qui aurait mal fait sa job ou qui aurait mal fait les choses. Je trouve que c'est là, des fois, que c'est tannant. Là.
Absolument. Puis c'est pour ça que j'appelle ça le tribunal populaire du Québec, là, parce que en fait, c'est des instances qui vont sanctionner très vite et des gens qui vont avoir des opinions. J'ai un personnage fictif que j'appelle Francine de Repentigny, qui, elle a écouté District 31, fait qu'elle sait comment faire une perquisition.
T'sais. Ah ben oui, on a les stats aussi.
Oui,
hein,
c'est ça, les spécialistes.
Oui, oui, oui.
Donc, ce que ça fait, justement, c'est que ça va blâmer la profession complète au lieu de dire, bien, il y a peut-être des comportements répréhensible de X personnes. Puis là, ça teinte l'ensemble des gens. Puis ça c'est pas cette partie-là qui vient me déranger. Parce que c'est des gens habituellement de cœur. Puis là, je parle de tous les intervenants d'urgence. Si je fais une parenthèse sur le carcéral, ça fait plus de 2 ans au provincial qu'ils sont en mouvement de pression. Tu sais, il y a un levier très difficile par rapport au gouvernement. On veut pas socialement que les prisons existent. Si vous passez en avant de l'établissement de détention de Québec, il y a des affiches partout. Oui. Il y a beaucoup d'entrées non sécuritaires avec les drones, les téléphones cellulaires. Se font livrer du Uber.
Du McDo.
Du McDo, c'est ça.
Se font livrer du McDo par l'eau.
Puis Puis là, les agents correctionnels, c'est toujours leur sécurité qui est en jeu là-dedans aussi. Donc, évidemment, c'est des professions où on parlait de reconnaissance qui n'en ont pas nécessairement. Les paramédics en ont plus. Les pompiers en ont beaucoup aussi. Mais pour les pompiers, si je parle de conditions de travail, en fait, il y a deux éléments fondamentaux. Un, on commence à mettre de plus en plus de premiers répondants. Le gouvernement se dit, on manque d'ambulances sur le terrain, donc on va faire quoi? On va prendre nos pompiers en caserne, qui font de la garde en caserne. On va les former 60 heures. Le mot-clé, c'est 60 heures ce matin. 60 heures de formation en premier répondant versus un DEC en service préhospitalier d'urgence. Et on va leur demander d'aller faire la première partie des appels médicaux. Vous dire combien de pompiers me disent « Hey Julie, moi, ça ne m'intéresse pas dans la vie. Moi, je voulais éteindre des structures en feu. Je ne voulais pas, moi, aller faire des soins médicaux en allant chez la madame, en constatant de l'amassement compulsif, de la santé mentale difficile, des enfants négligés, 42 chats. Je veux dire, moi, c'était pas ça, ma job. Moi, je m'en allais éteindre des feux. »
J'ai l'impression que c'est déception après déception aussi parce que je reparle de cette fameuse journée-là où j'ai accompagné les paramédics juste parce que c'est le seul exemple que j'ai en tête. Mais à la fin de la journée, je me souviens qu'on a eu un appel P1, priorité 1. Fait que là, t'es comme en urgence, t'es ces sirènes, tu comprends? Il y a quelqu'un qui va mourir, là. Il pensait que la dame faisait une genre de crise cardiaque pour se rendre compte que la dame était une immigrante qui avait des problèmes avec son visa, elle était là-dedans depuis des semaines, et ce qu'elle était en train de faire, c'est une crise d'anxiété.
Ouais.
Parce qu'il n'y a rien qui avançait. Puis quand on est arrivé sur place, il y avait les fameux premiers répondants. Fait que là, ils sont comme 8 pompiers, tu comprends, qui arrivent sur place, et le moment où ils rentrent dans la maison... La dame se calme parce que c'était une crise d'anxiété et là, elle se sent prise en charge, fait que ça va mieux. Et là, t'as ces pompiers-là à l'extérieur avec qui jase pendant que les paramédics font leur job parce qu'il faut quand même qu'il y ait un processus qui doit se faire quand tu débarques, là. Puis les gars, c'est un peu ça qu'ils me disaient, là, t'sais. Nous autres, c'était quasiment le moment excitant de la journée où on se disait « Oh, au moins, on va se déplacer comme premier répondant pour quelque chose, tu sais, ça va être...
Ouais. »
Finalement, c'est pas ça nécessairement.
Mais sais-tu quoi, pour l'avoir vécu, là, avec mon papounet d'amour qui a eu un enjeu, puis où... Je l'ai perdu quelques secondes, là, pour vrai. C'est un policier qui est rentré dans la maison en premier. J'étais tellement heureuse d'avoir quelqu'un.
Ouais.
Oui. J'étais plus toute seule, tu sais. Ça m'a tellement fait de bien, là. Là, j'ai fait « OK ». Puis ils sont arrivés rapidement.
Ouais.
Fait que là, moi, j'ai aussi pu prendre sur moi puis être davantage présente avec papa. Puis, tu sais, on n'a pas fait venir l'ambulance pour rien, là. Il y avait vraiment un enjeu cardiaque et tout. Puis, mais Seigneur, je comprends que le policier, c'était pas ça que c'est sa job nécessairement puis qu'il n'est pas allé à Nicolette pour faire ça.
Non. Mais le trouble, c'est peut-être justement qu'on n'a pas les bonnes ressources aux bonnes places. Parce que tu as tellement raison, Kat.
Oui, mais tu sais, en même temps, s'il avait fallu qu'on fasse le massage cardiaque à papa, j'ai l'impression que cette personne-là aurait davantage été mieux.
Oui,
aurait été mieux équipé et organisé mentalement que moi.
Ça certainement. Ils sont habitués à cette pression-là. Là.
Oui, mais là, t'es la fille, hein? Fait que ça marche pas, même si t'avais le meilleur RCR. Je veux dire, quand on est relationnellement impliqué, ça marche pas.
Ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a un stress qui vient avec ces métiers-là parce que, justement, ils sont habitués, ils ne veulent pas de gérer ces situations d'urgence-là. J'imagine qu'il y a un voile qui se met à un moment donné, là, tu sais, pour éviter d'être touché personnellement. Puis toi, ce avec quoi tu travailles, finalement, on va se le dire.
Absolument.
Le stress, est-ce qu'il vient des situations d'intervention où ça, on s'habitue? Ou c'est plus l'organisation de travail, peut-être?
L'organisation de travail, mais j'ai envie de dire, les situations, c'est pas tant le fait de faire le massage cardiaque, dans le cas comme tu viens de donner, Catherine, c'est plus le contexte dans lequel on s'en va. Est-ce qu'il y a des gens sur place? Est-ce que la famille est sur place? Est-ce que la famille est en crise? Est-ce qu'il y a 12 voisins? On appelle ça des wearers sur le terrain. Donc,
Dieu,
y a-tu plein de gens qui s'en vont check et voir ce qui se passe? J'ai-tu une pression de performance parce que j'entends sur les ondes radio d'autres appels, j'entends qu'il manque de véhicules. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sens. Fait que oui, les situations peuvent avoir une couleur, mais j'ai envie de dire que l'émotivité de la scène, moi, c'est beaucoup ça que je vais recevoir en débriefing et c'est souvent des questions que je vais poser. Fait que sur un suicide, je ne vais pas dans les détails, je ne veux pas scratcher les oreilles de personne, mais sur un suicide, par exemple, ben, il va y avoir une différence sur le moyen qui est employé, les gens qui sont sur place, l'âge de la personne. C'est pas tant la scène dans le sens du sang, puis je vois pas plus loin dans mes détails, c'est vraiment beaucoup ce qui se passe. Qui est là? Qui réagit comment? Et ça, cette préparation-là, pour enseigner au cégep, je veux dire, c'est dur à reproduire, parce que même si tu mets des comédiens puis du faux sang, je veux dire, ça reste une évaluation. Ton évaluation vaut 30%, tu le sais que tu es en contexte d'évaluation. Quand tu arrives dans la vraie vie, puis que tu es fatigué, puis que tu es en fin de corps, puis tu es peut-être en temps supplémentaire obligatoire, ça se peut que ça rentre différemment dans ton cerveau. Moi, j'appelle ça des scratchs. Fait que ton événement traumatique va faire une scratch différente parce qu'il y a une émotivité sur la scène. J'avais un pompier ce matin, je disais tantôt à Audrey, avant d'entrer en onde, j'avais plein de gens qui m'écrivaient parce que je disais que j'étais à la radio ce matin. Il y a un policier qui m'écrit en privé pour me dire « Oublie pas de parler de quand on est dans notre communauté. » Ah, si c'est quelqu'un que je connais, j'ai beau être une police, un paramédic, un pompier, mais si ça arrive chez Jean-Guy, mon voisin, je connais, moi, Jean-Guy. Là, ouais. Fait que je ne suis plus dans une scène, je suis dans Jean-Guy et la situation. Mm. Ça, c'est un facteur super important.
Comment ils font pour pas être brisés? Tu sais, t'étais des années à faire ce métier-là. Je t'écoute, Julie, puis moi, voir un suicide demain matin, là, probablement que je suis brisée pour une couple d'années. Laisse-moi me reconstruire. Eux, c'est tous les jours. Puis j'adore le métier que tu fais, mais malgré ce métier-là, malgré l'aide qu'on peut t'apporter, c'est parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup sur le cœur, sur la tête, là.
Bien, ils ont des mécanismes assez cute qui s'appellent l'humour louche. Ils ont un humour assez particulier, honnêtement.
J'appelle ça doit être louche.
Ah oui, je dis louche parce que...
En fait, je me demande si ça peut des fois ressembler à l'humour de journaliste.
Ah, certainement. J'en doute absolument pas, mais c'est une façon de... Tu sais, la dérision va créer une distance par rapport à l'événement.
Oui.
Fait que des fois, ça va loin. Okay, des fois, puis je suis certaine que c'est la même chose chez les journalistes parce que je vais dans les salles d'urgence puis c'est la même chose chez les médecins, infirmières, préposés. Donc, on prendre distance par rapport à l'événement avec cette stratégie-là. Tu sais, on parlait d'exposition. Je ne me rappelle pas si je l'avais dit la dernière fois, mais c'est 600-850 scratch dans une carrière au Canada versus 2 à 3 dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Je la répète souvent, cette stat-là, parce que c'est vraiment important. Fait que l'humour, le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait faire aussi. On appelle ça la satisfaction de compassion. Donc, réussir à se dire, ben moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. C'est la différence qu'on peut faire, c'est dans l'humanité, pas juste dans les soins puis dans la façon de faire les choses, c'est aussi de dire, je suis repartie avec le sentiment du devoir accompli.
Moi, ça s'appelle la satisfaction de?
De compassion.
La satisfaction de compassion.
Versus la fatigue de compassion, qui est l'usure de l'être humain qui va toujours mal. Fait que la satisfaction de compassion, c'est vraiment une façon de dire, j'appelle ça l'antidote à la fatigue de compassion, le cynisme, le burn-out, tout ça. En fait, l'autre côté, c'est de dire, je retrouve quelque chose, c'est ça pourquoi que j'ai fait de la job. Fait que si je reviens à mon paramédic en rétention, c'est dur d'avoir une satisfaction de compassion quand t'attends l'urgence puis qu'il est là.
C'est pas valorisant.
Il y a 8 civières, vous êtes 16 paramédics, tout le monde finit par jouer sur son téléphone parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? Puis des fois, honnêtement, tu sais, pour y aller souvent sur la route, des fois, je suis comme, ah, mon Dieu, on est complètement imbécile puis on oublie qu'il y avait des patients. Je m'inclus là-dedans parce que ça finit par... Ben, on oublie qu'il y a du monde. Puis
c'est tellement blasant à un certain point que...
Tu vois, Audrey, satisfaction de compassion, ça va être toi, ça, aujourd'hui. Avec tout ce que tu as fait, puis pour réussir à pied levé.
Au nombre de mises à jour qu'Audrey m'a faites sur l'émission.
Tu vois, ça va être. Aujourd'hui, tu vas pouvoir te coucher avec la satisfaction de compassion que tu as été utile aujourd'hui, puis que tu as pu te dépanner, puis que le pourquoi du parce que tu es allé à l'école est mis à profit. Voilà,
mais la réalité, c'est que c'est vrai que c'est valorisant, puis tu as un sentiment d'être comme Superman, Superwoman. Puis tu sais, moi, je fais juste de la radio, je chauffe pas de vie, je suis pas bien utile à la société. Là, fait que je peux pas croire pour.
Pour pas ça, parce que je suis certaine que ça fait du bien à plein de gens.
Oui, mais on est dans le divertissement. Ah, ces gens-là sont sur le terrain, voient des choses épouvantables puis réussissent quand même à faire leur chemin à travers tout ça. Le rôle des gestionnaires, puis j'explique un peu ma question, peu importe le métier, que ce soit pompier, que ce soit agent carcéral, que ce soit policier, peu importe. J'ai comme le sentiment que il y a un moment où tu craques, que tu le veuilles ou non. Tu sais, j'imagine que, je sais pas, tu débarques sur une scène super banale. C'est une dame dans une RPA qui est seule, puis qui va décéder. Puis toi, ta mère est décédée seule. Mmh. Tu dois faire un lien, veux pas, émotif. Une projection qui doit être vraiment, vraiment profonde. Quand tu termines un cas comme ça qui a l'air bien banal pour la société, là, comparé à tout ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, là, est-ce que tu as le droit... comme professionnel d'urgence, de te retirer?
Absolument. Dans les dernières années. Hein, moi, je rappelle, j'ai commencé nouveau, il y a presque 29 ans. C'était pas ça du tout. De toute façon, les gens mettaient pas le genou à terre. Tu sais, c'était des mâles alpha, puis c'était... Ben, je suis capable, j'ai choisi ce job-là. Jack Daniels était un bon thérapeute, on se rappelle. Par contre, maintenant... On le salue toujours, Jack, toujours membre de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on forme beaucoup, puis encore la semaine passée, j'ai fait 2 formations à des gestionnaires de premier niveau. Donc, sergents, des lieutenants d'incendie, paramédics, c'est des superviseurs. Donc, on les forme à dire, on va faire un désamorçage, défusing, et on va faire verbaliser les gens, mais il faut être conscient des signes. Puis j'adore l'exemple que tu as donné, Audrey, parce que souvent, les appels impliquant des enfants, les appels, tu sais, tueries de masse, n'importe quoi, là, de super gros, on a tendance à dire, ben oui, on va faire un désamorçage après. quand c'est la madame en RPA, justement, ton exemple est extraordinaire, puis que, ou le premier constat de décès chez des paramédics qui n'ont jamais vu de cadavre de leur vie, bien, assurément qu'on le sait pas, c'est pas spectaculaire. Puis là, je mets 25 paires de guillemets si vous regardez sur Twitch. Donc, ce qu'on va faire, c'est permettre au superviseur de prendre un petit moment avec la personne pour voir comment ça va réellement. Puis, t'as-tu envie de rester au travail? Puis, t'es-tu apte à rester au travail?
Ouais.
Parce que ça se peut que je sois tellement chamboulée que mon appel d'après, je me rappelle plus de mon nom, j'oublie ma trousse, je laisse
la cigarette dans la rue, je suis plus là partout.
Fait que ça, c'est super important qu'on fasse ça maintenant. Et ça se fait. La culture tend à changer. Dieu merci, ça fait partie de ce que je constate.
Puis, tu peux-tu être un bon juge envers toi-même pour dire oui, je peux rester ou je peux pas rester?
C'est une super bonne question. Plus on les sensibilise à leurs signes, plus on change la culture, moins les gens ont de tabous à demander de l'aide. Et okay. Ça, là, c'est ce que je constate. Et moi, c'est pour ça que je suis ici ce matin, en fait, c'est enlever ces tabous-là. Il faut pas avoir peur de mettre le genou à terre. Puis, souvent, on se dit j'ai choisi cette job-là. Oui, tu as choisi cette job-là, mais tu n'as pas choisi cet appel-là aujourd'hui. Fait que laisse-toi l'espace. J'ai commencé à aller en caserne. Moi, les paramédics, ça va faire 11 ans cette année. J'ai commencé à aller en caserne. Les gens se cachaient pour venir consulter. Et là, c'est rendu super normal. Mmh. C'est la même chose dans tous les milieux.
Je trouve ça beau, là.
Ah oui, c'est beau à voir.
Tu sais, des fois, on en parle beaucoup de santé mentale, puis c'est bien, mais des fois, j'ai l'impression, puis c'est vraiment une perception, mais qu'on en parle tellement qu'on la banalise à un certain point, tellement on en parle. Mais de savoir que le chemin se fait bien, on dirait que ça me rassure.
Moi, j'aurais espéré que ça soit plus ouvert que ça depuis plus longtemps.
Oh non!
Parce que ces gens-là côtoient la misère du monde. Oui, là.
Absolument.
Des choses que... Puis tu sais, les scratchs, le nombre de scratchs entre la réalité, puis c'est la réalité, monsieur, madame, tout le monde, puis les gens qui font ces métiers d'uniforme-là que tu viens de mentionner, c'est majeur. Donc, avoir la possibilité... Puis il faudrait tellement que ça soit ouvert, démocratisé. Oui, puis, ça ne peut pas être obligatoire parce que si tu ne veux pas travailler sur toi, ça ne fonctionnera pas.
Moi, j'ai des clientèles que c'est obligatoire, honnêtement.
Mais je travaille avec des enquêteurs.
Ah oui, en agression sexuelle, je travaille avec les enquêteurs dans certains services de police. Ils ont une obligation de consulter. On avait fait, puis c'était une entente syndicale, ville et... ville, syndicat et moi. Donc, on s'entend pour dire qu'on va faire à chaque année une rencontre obligatoire avec les enquêteurs en agression sexuelle juvénile. Fait qu'ils sont surexposés à des situations évidemment extrêmement lourdes. Et au départ, on oblige une fois par année. Fait que la première fois que j'y vais, tu sais, il y a un tabou, puis c'est qui elle, puis nous comprends-tu, puis mon secret, tu sais, étanche. Bon, les questions usuelles dans le milieu. Et éventuellement, les policiers ont demandé à avoir deux fois par année parce qu'ils se rendaient compte que finalement,
ça donnait
deux heures,
main,
c'était pas long. Ouais. Ouais. Puis là, ils vident leur sac. Fait que c'est beau de voir que, moi, j'appelle ça les apprivoiser. Puis je fais toujours l'analogie avec le petit prince, le renard du petit prince. Là. Ouais. Je dis pas ça dans le sens où ils sont méchants, pas du tout. Mais c'est de dire, j'arrive sur votre planète, puis je me permets de dire, ici, là, c'est l'espace pour tout garocher. Fait que c'est beau de voir que, mais il faut y aller petit à petit parce que, tu sais, j'ai beau faire des formations qu'on a pu finir à faire de la radio ce matin. Il reste encore une mentalité, tu sais. De j'ai choisi cette job-là, je dois donc.
Oui, puis c'est sans rien t'enlever, Julie, mais j'imagine. En passant, on était avec Julie Nadeau, qui est travailleuse sociale en milieu d'urgence, là, mais j'ai l'impression que même si tu excelles dans ton travail, peut-être, tu pourras peut-être jamais ressentir ce que c'est réellement l'accumulation de ces traumas-là avec le temps. Les proches. Ouais. J'ai l'impression que si t'es femme de policier, de pompier, de paramédic, t'es cop, là, que tu le veuilles ou pas, t'es cop, tes enfants sont cop, je veux dire, c'est...
Puis
c'est pas sain, à mon sens, si ce professionnel-là d'urgence se permet pas d'en parler, fait que...
Ouais.
Comment ça se gère, tout ça?
Bien, on essaie de leur dire qu'ils peuvent parler de comment ils se sentent, mais peut-être pas de l'aspect sensoriel. Parce que ce qui va scratcher quelqu'un d'autre, mettons, si je vous raconte un événement, puis vous voyez depuis tantôt, je fais attention, on appelle ça du traumatisme vicariant. Donc, c'est de scratcher quelqu'un d'autre en racontant trop de détails sensoriels. Mm. Fait que je peux dire, par exemple, je suis allée sur un suicide ce matin, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, c'est venu me bouleverser, ça m'a remise en question, mais j'ai pas besoin de raconter la scène. La scène n'est pas censée me faire tant de bien, sauf si je le fais d'une manière thérapeutique. Et ça, je vous plug un petit mot américain, ça s'appelle la trauma porn. Fait que la trauma porn, c'est le fait d'aller raconter à qui mieux. Puis là, il y a plein de podcasts à la mode, et oui, je juge 3 secondes. Puis là, il y a plein de gens qui racontent full détail. Puis là, ben, les gens qui reçoivent ça, ben, ils sont scratchés. Fait que ça, c'est pas une pratique qui est utile.
Hey, et pourtant, on aime ça.
Ben oui, mais on se pète le mental en bon québécois.
C'est fou parce que on est... Puis là, que ce soit du true crime ou...
Oh,
tu sais, nous, ça fait partie de notre job, Kat, là, mais moi, je veux dire... Puis c'est malsain, ce que je veux dire. Là. C'est vraiment malsain, je t'avertis, Julie. Là. Non, mais moi, j'aurais un un paramédic ici, tu comprends, qui voudrait, qui serait à l'aise de me raconter les pires anecdotes qu'il a vécues dans une carrière. Je veux dire, mes oreilles sont grandes ouvertes parce que je connais pas ce milieu-là. Puis pour moi, c'est comme un film.
Ouais, puis lui,
tu vas me raconter une histoire.
Ouais, mais lui, il se réémerge dans son trauma. Fait qu'on scratche le paramédic. Puis toi, tu vas être scratché. Puis il y a probablement plein d'auditeurs qui vont être scratchés parce que ça va leur réveiller des fantômes. Puis c'est extrêmement malsain. Puis la semaine passée, je formais des pompiers. Puis il y a un pompier qui me dit, tu sais, Julie, plus on en parle, plus on devient désensibilisé. Non. Plus t'en parles, plus tu deviens dissocié. Ça enlève pas tes événements. Ça fait juste te couper. Ça coupe ton mental puis ton affectif. Et les études sont claires là-dessus. Là, c'est scientifique ce que je dis. Fait que moi, j'ai plein de clients qui me disent, ah, je vais écouter podcast XYZ. Ça va me faire du bien. Je vais me normaliser. Ben, ils me disent pas ça de même. Là, mais moi, je comprends qu'ils veulent se normaliser. Au final, ben, ils se rebrisent.
Fait que là, la distinction est vraiment claire de ce que tu viens de faire.
Alors, c'est le sensoriel. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Et j'écoute du true crime en passant, le cordonnier extrêmement mal chaussé ici. Là. Mais quand on est dans des périodes de vulnérabilité, d'aller écouter l'autre, on pense dire « Ah oui, on connecte. » Ben non, on connecte pas. En fait, je rouvre ma boîte à trauma, vous voyez là, comme ça. Là. C'est une grosse boîte dans laquelle j'ai mis mes 600-850. Puis là, Catherine, elle me raconte son histoire. Ben là, ça va faire un lien avec une de mes bébites dans ma boîte à trauma. Puis là, je dis « Mon Dieu, mais je vais pas bien. » Puis des fois, on s'en rend pas compte. C'est très, très insidieux, ce mécanisme-là. Fait qu'on appelle ça la « trauma porn ». Et j'en parle de plus en plus dans mes formations. J'écris beaucoup là-dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'ultra malsain. Pensant bien faire, hein, je pas l'intention. Mais malheureusement, on scratche tout le monde autour.
Mais non, mais je veux dire, on doit plaider coupable. Ça fait partie un peu de ce qu'on fait dans le métier, d'aller chercher ce genre d'informations-là, de faire vivre ce genre de trucs-là aux gens. Fait que on plaide coupable totalement, mais tu me fais réaliser qu'effectivement, que c'est peut-être pas...
On peut faire vivre l'émotion sans mettre la scène. Non?
Exactement. J'ai envie de te demander, en terminant, Julie, qu'est-ce qui manque selon toi? Tu sais, tu l'as dit, ça fait plus de 25 ans que tu fais ça. Tu as vu l'évolution au niveau de cette santé mentale-là chez nos travailleurs d'urgence. Est-ce que tu as l'impression que c'est complet ce qu'on offre en ce moment, étant donné que les gens sont de plus en plus ouverts? Comment on peut peut-être améliorer ça encore dans le futur?
Mais pas du tout, mais pour moi, il faut jouer ces conditions systémiques. Puis c'est pour ça que je t'avais proposé de parler des conditions de travail. Puis là, je suis pas là pour faire un plaidoyer syndical ce matin, mais donner des meilleures conditions de travail, comprendre aussi que là, on n'a pas parlé de l'horaire, là, mais jour-nuit, là, change. C'est switcher, en fait, qui est difficile. Oui, travailler de nuit, c'est difficile. Moi, je fais de la route tout le temps de nuit parce que j'aime ça, ils appellent de nuit. Essayer de manger à Québec de nuit à la base, honnêtement, à part de la poutine, ça va être correct. Oui, ça finit en poutine. Règle générale, c'est bien correct. Mais ça reste qu'à long terme, moi, je fais un chiffre par mois, c'est pas si pire. Ce qu'il faut voir, c'est les conditions de travail, c'est aussi la rétention du personnel, prendre soin des gens. Moi, je travaille avec les organisations qui veulent travailler à santé mentale, mais il y en a plein qui ça leur passe 32 pieds par-dessus la tête. Puis ils disent aussi à l'intervenant, tu iras chercher de l'aide. Bien, savez-vous quoi? Ils vont rarement chercher de l'aide. Puis quand ils viennent, ils minuit moins une. Là, ils nous appellent juste la semaine passée. Je travaille avec la Vigile là, depuis la Fondation il y a 25 ans. On reçoit un appel, puis le policier, il est sur le bord de passer à l'acte. Là. On est collé sur le passage à l'acte, là, maintenant. Là. Fait que, tu sais, il a attendu à la dernière seconde, puis la fenêtre d'opportunité pour le rappeler est toute petite. Fait que favoriser la demande d'aide, moi, je pense
c'est drôle,
que c'est ce qui reste.
Tu parles des conditions de travail. Il y a Dave qui nous a envoyé un texto. Il dit « Les ressources disponibles sont un gros facteur. J'étais dans la GRC en milieu rural et nous étions seuls dans notre autopatrouille. Et des fois, mon collègue le plus proche était à 30 minutes. Le cerveau travaillait fort pour me préparer au pire scénario en se dépêchant pour arriver vite sans me mettre en situation difficile, sans avoir mon backup près de moi. »
Bien, merci, Dave, parce que si on regarde la statistique, il y a une vaste étude sur la santé mentale des intervenants d'urgence, c'est 2018, mais quand même, et la GRC, oui, sort première au niveau du post-trauma et le fait d'avoir du backup très loin, ben ça fait une grosse différence.
Pour ta sécurité personnelle aussi, puis ce que tu anticipes, là. Julie, c'est toujours tellement intéressant de te jaser. Évidemment qu'on va se reprendre, on va se trouver d'autres angles. Vous avez des questions? 88-971-1021 par texto. On revient dans quelques instants. Merci. Bridge against the